Bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine, édition du 14 juin 2018. Ça a l'air de rien, mais c'est presque la moitié du mois, ça.
La moitié du mois.
Du mois. C'est Marie Lalande qui vous parle. Dire,
c'est presque la moitié de l'année.
Juin, c'est Marie Lalande qui vous parle. Avec moi en studio, l'équipe du jeudi matin. Monique Kiroak.
Bonjour Marie.
Bonjour
Yvan.
Bonjour Monique.
Bonjour Yvan.
Mathieu.
Et bonjour Mathieu Tessier en
bonjour,
régie.
Bonjour.
Alors, chers collaborateurs, qu'est-ce que vous nous présentez aujourd'hui?
Moi, j'ai un thème aujourd'hui. On dit toujours que c'est comme faire de la bicyclette, on n'oublie pas ça.
Mm-hmm.
Mais il faut commencer un jour
à apprendre.
Alors, mes deux thèmes sont par rapport aux enfants et l'apprentissage de la bicyclette.
Ah, les premiers pas. Ou les premiers tours de roue.
Les premiers, les deuxièmes, les troisièmes.
Merci, voilà. Et Monique?
Oui, alors de mon côté, positive ou négative, ben les émissions. Excusez, les émotions.
Les émotions dont on parle à notre
totalement
émission.
Émue,
on va
c'est
faire
ça.
Une émission d'émotions.
Exactement. Les émotions seraient contagieuses.
Ah oui.
Alors, on s'intéresse à l'impact du non-verbal sur nous, êtres humains.
J'ai hâte.
Et... l'autre article, est-ce possible qu'il y ait une autre Terre dans une autre galaxie?
Oh
oui!
Yeah. De mon côté, je vais vous parler d'un sujet, je pense que vous ne connaissez pas. Je vais vous parler d'écriture approchée. Alors, c'est une façon d'apprendre l'écriture qu'on utilise au primaire et, dans un deuxième temps, des effets ravageurs de la surexposition aux écrans sur les enfants. Voilà. Alors, on commence. Monique, on parle d'émotions.
Oui, pas d'émissions, mais d'émotions.
D'émotions qui s'attrapent.
Ah ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. Donc, c'est un article...
Tu vas nous faire rire ou tu vas nous faire pleurer?
Ben, je pense que j'ai plus l'habitude de vous faire rire. Là. Mais alors, c'est un article de Dominique Nancy pour le journal Forum de l'UdeM du 6 juin 2018. Et l'article s'intitule « Les émotions sont contagieuses », avec un point d'exclamation. Alors, tous les jours, nous sommes exposés aux comportements non-verbaux de ceux et celles qui nous entourent. Les gestes, les mouvements des yeux, expressions faciales, postures, intonations de la voix nous influencent. Le rire en est un parfait exemple. Si votre interlocuteur rit, ben vous aurez spontanément envie de rire. Et ce n'est pas pour rien qu'on dit que le rire est contagieux. Et c'est ce qu'affirme M. Pierre Riche, plus que Leck, qui est professeur à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal.
Comment il s'appelle?
Plus que Leck, PLUSQUELLEC.
Oh mon Dieu!
Alors, c'est ça de l'Université de Montréal, je disais donc, et directeur du Centre d'études en sciences de la communication non-verbale. C'est un centre qui a été créé il n'y a pas très très longtemps. Chaque fois que nous interagissons avec quelqu'un, nous ressentons son émotion. C'est une réponse automatique, non intentionnelle et souvent non reconnue. Nous imitons et synchronisons les expressions faciales et mouvements du corps. Ce phénomène s'appelle « contagion émotionnelle ». Alors, l'objet de l'étude de la chercheuse américaine Helen Hatfield, la contagion émotionnelle est de plus en plus populaire auprès des employeurs. Elle favorise la compréhension de l'autre et l'établissement du lien de confiance qui sont essentiels aux relations humaines harmonieuses. Le problème survient lorsque les émotions ressenties sont négatives. Votre patron est colérique. Vos collègues sont tristes ou stressés, vous risquez de le devenir à votre tour. La joie, la colère, la tristesse et la peur provoquent des expressions faciales caractéristiques qui transcendent les cultures. La sensibilité aux indicateurs non-verbaux a fait l'objet de nombreuses études, signale M. Plukelec. L'incidence de ce lien et notre compréhension de celui-ci peuvent être un important vecteur afin de bonifier nos relations et de maintenir une harmonie avec notre entourage Donc, être conscient de cet immense potentiel communicationnel et de sa propre sensibilité devient un atout, étant donné la tendance organisationnelle actuelle à travailler davantage en équipe.
Ben oui.
La communication non-verbale nous intrigue, depuis fort longtemps. Une pléthore de chercheurs se sont intéressés au sujet, dont Charles Darwin lui-même, donc à la fin du 19e siècle. Donc,
à l'Université de Montréal.
Ce n'est pas... non, pas vraiment. Ce n'est pas nouveau. Donc, ce champ de recherche a gagné en popularité. Des scientifiques de différents milieux, notamment de l'éthologie. Alors, on se demande peut-être ce qu'est l'éthologie. C'est l'étude scientifique du comportement des espèces animales, incluant l'humain, dans leur milieu naturel. Donc, je disais, dans les milieux de l'éthologie, de la communication, de la psychologie et de la médecine, y ont consacré une bonne partie de leur vie. Mais, attention, il attire aussi des adeptes des pseudo-sciences et des charlatans de toutes sortes, et c'est que les techniques et les notions n'ayant pas fait l'objet d'une publication scientifique sont diffusées peut-être un peu trop largement. Alors non, se gratter le nez et avoir le regard fuyant ne signifie pas que la personne en face de nous est en train de mentir.
Oh!
Elle peut juste avoir envie de se gratter. De plus...
Et de fuir.
Ouais, et de plus, dit-on, le menteur avéré a plutôt tendance à regarder son interlocuteur droit dans les yeux. Note le chercheur qui précise qu'il y a une différence entre voir et observer. Pour bien observer et donner un sens à ce qu'on voit, il faut d'abord connaître. Ensuite, on pourra mieux décoder et prédire les comportements qui pourraient survenir. Alors, comme je disais, aujourd'hui, M. Plukelec, professeur à l'Université de Montréal, dirige depuis 5 ans une équipe d'une dizaine d'étudiants-chercheurs qui se penchent sur différents aspects de la communication non-verbale et son incidence sur le travail d'intervention. Sensibilité interpersonnelle, empathie, contagion émotionnelle, ainsi que sur les programmes de prévention et d'intervention visant à rééquilibrer le système biologique du stress. Donc, il étudie les comportements non-verbaux pour voir comment on peut peut-être mieux gérer l'impact sur nous, qui sommes très sensibles à ces aspects colériques ou autoritaires.
Mm-hmm. Oui. Mm-hmm.
Son équipe s'intéresse uniquement aux connaissances scientifiques sur la communication non-verbale. Donc, il dit que ses travaux s'appuient principalement sur la codification objective de comportements à partir d'enregistrements vidéo couplés à des mesures physiologiques et des instruments d'évaluation du comportement plus classiques qui sont utilisés en épidémiologie, comme des questionnaires, des échelles d'évaluation et récemment des outils issus des progrès en intelligence artificielle. Donc, ce n'est pas juste une petite observation là, sur le coin de la table. On ajoute d'ailleurs de vraies observations, pas juste des impressions. Donc, à l'aide de l'index des citations d'une base de données électronique bibliographique multidisciplinaire complète qui s'est étalée de 1947 à aujourd'hui, les chercheurs ont pu fournir une analyse descriptive détaillée des 1000 articles les plus cités dans le domaine de la recherche sur le comportement non-verbal, ainsi que la liste des auteurs les plus connus. Il en ressort que les principaux thèmes étudiés sont l'expression faciale, la posture, le ton de la voix et l'espace interpersonnel. La communication non-verbale est de nature interdisciplinaire et donc d'intérêt mondial. Pour ce qui est de la provenance des chercheurs, il est intéressant d'apprendre que le Canada est le 4e pays au monde à publier le plus d'études sur le sujet. Mm-hmm. Les 1000 articles les plus cités remontent aux années 60 et atteint un sommet en 2008. Un document de neurosciences est notamment rapporté 1341 fois, signe que cette publication a considérablement contribué au domaine de la recherche. Il s'agit d'une étude montrant l'activation de l'amygdale relativement aux images de visages craintifs. Donc, on examine...
La réaction. Le
corps humain, oui. Là. Un autre article, cité 1120 fois, a démontré que les nourrissons d'à peine 12 jours pouvait imiter les mimiques du visage et les gestes de la main. Mmh. Une découverte révolutionnaire à l'époque, compte tenu que dans les années 70, on croyait que les bébés commençaient à imiter les gestes entre 8 et 12 mois, mmh. ce qui est très différent de 12 jours. Mmh. Alors voilà, les auteurs donc continuent leurs recherches et on sera à l'affût pour en découvrir un peu plus sur l'impact du non-verbal sur nos émotions.
Très intéressant, vraiment. Alors, l'écriture approchée, c'est un outil efficace pour aider les élèves du primaire à écrire. C'est un texte de Anan Lin, publié sur le site nouveauil.fr. Donc, c'est un site français. C'est un magazine sur l'éducation et ça a été publié le 25 mai 2018. Beaucoup d'enfants ont des difficultés à rédiger un texte. Et ça, c'est pas quelque chose de très récent. Hein?
Non, non.
Ça
a toujours été comme ça. Même des adultes.
Oui. Pour Jacques David, maître de conférences en sciences du langage, la mise en place d'activités d'écriture approchées dès la maternelle peut être une solution. Alors, qu'est-ce que c'est l'écriture approchée?
On a tellement hâte de savoir ce que
ça,
c'est.
Ça, c'est dans une classe, ils se mettent tout en
oui,
tapons,
comme des sardines.
Ils sont collés les uns sur les autres.
Puis, donc, il y a un impact comme un jeu de domino. Ouais. Je sais écrire,
puis là,
je sais écrire,
l'émotion est transmise.
Alors, rassurez-vous, chers auditeurs, non. L'écriture approchée, c'est une pratique scolaire qui permet aux élèves de produire directement et de manière autonome des écrits. Autrement dit, il s'agit de faire écrire les enfants avant d'entrer dans un apprentissage orthographique et de favoriser leur connaissance de l'écriture en prenant appui sur leur production. Alors, pour beaucoup d'enseignants, pour beaucoup de gens, pour commencer à écrire, il faut tout connaître. Savoir tout, connaître toutes les lettres, connaître tous les sons. Dans l'écriture approchée, on y va autrement. On y va à partir de ce qu'on sait. Et on demande aux enfants d'écrire avec des dessins, par exemple. D'écrire à partir des lettres qu'ils connaissent. Alors, je continue à lire parce que, quand même,
t'es en train de nous l'expliquer,
là, finalement. L'enseignant a donc pour mission d'encourager les enfants, pas encore lecteurs, mais qui essaient spontanément de représenter à l'écrit les sons qu'ils entendent, de le faire avec des dessins ou des mots qu'ils connaissent. Néanmoins, l'originalité du dispositif n'est pas de se contenter uniquement de les faire écrire, mais de proposer un retour sur ce qu'ils ont fait, sur ce qu'ils ont réussi. L'enseignant observe ainsi les stratégies utilisées par les élèves et propose une écriture approchée, légèrement plus complexe que celle produite par l'enfant. Il valorise les essais de l'élève et s'appuie sur ses propositions pour aboutir à l'orthographe conventionnelle du mot. Alors, l'idée de s'approcher de la norme ou de l'écriture conventionnelle. On constate que les enfants progressent très vite et notamment les élèves les plus défaillants, c'est-à-dire ceux qui ont du mal à analyser les unités sonores de la langue orale. En fin de cours préparatoire, le cours préparatoire, c'est le CP en France, ça correspond aux élèves qui ont 6-7 ans ici, donc qui sont en première année du primaire. Nous arrivons à des résultats très intéressants de la part de ces élèves. Ces derniers ont des compétences analogues égales à ceux qui parvenaient déjà à lire et à écrire sans difficulté ou retard. Il s'agit d'un dispositif relativement ancien, avec des pratiques très différentes d'un pays à l'autre. Dans les pays anglo-saxons, notamment en Angleterre et aux États-Unis, c'est une méthode extrêmement courante et très répandue. Alors, vous vous demandez peut-être quel est l'intérêt pédagogique de l'écriture approchée. Ça aide les élèves à rentrer dans l'apprentissage d'abord de l'écriture et puis de la norme orthographique. Concrètement, elle fait prendre conscience des unités sonores des mots et des phrases courtes, et permet de résoudre progressivement des problèmes, notamment des problèmes d'encodage. Elle aide aussi les enfants à segmenter les mots. Ces différentes compétences ont un effet positif sur la lecture en même temps. Cela développe chez eux une plus grande acuité dans la découverte et la maîtrise des principes alphabétiques. Les principes alphabétiques, c'est comprendre qu'à une lettre isolée ou à un groupe de lettres, ce qu'on appelle des graphèmes, correspond un son, ce qu'on appelle des phonèmes. C'est ça le principe alphabétique. L'écriture approchée permet également de s'affirmer en permettant notamment aux plus réservés de s'exprimer, d'exercer un pouvoir sur le monde en leur donnant la possibilité de transformer la réalité par leurs mots et de créer des histoires qui reflètent davantage leur inconscient. L'intérêt immédiat de cette pratique, l'enfant est en situation de produire de l'écrit. On n'attend pas qu'il sache tout. On les met en situation d'écriture. Il est en action. Il n'essaie pas simplement de décomposer des mots de manière abstraite. Il parvient ainsi à mobiliser beaucoup mieux ses connaissances et à mettre en œuvre des procédures de plus en plus fines. L'enfant a également la possibilité de revenir sur ce qu'il a écrit et d'avoir un retour constructif de l'enseignant. Le texte, produit par lui-même, lui permet donc de prendre conscience de la valeur de la communication écrite. Très rapidement, il pourra écrire ses petits textes et les faire lire. Comment ça s'utilise en classe? Utiliser l'écriture approchée en classe demande une certaine formation, on s'entend. En classe, l'écriture approchée est un exercice qui peut être décliné en plusieurs phases, permettant d'améliorer l'acquisition du système orthographique. D'abord, un projet d'écriture. Ensuite, l'élaboration d'un message. Ensuite, la mise en écrit. Et finalement, la transcription dans la norme orthographique. Chacune de ces phases constitue un rôle clé dans la progression d'apprentissage de l'enfant. Concrètement, l'enseignant propose à ses élèves des situations d'écriture et puis s'ensuit un échange collectif, le plus souvent sur les productions réalisées et la manière dont ils s'y sont pris pour coder et transcrire. On s'aperçoit très rapidement qu'ils développent des stratégies de codage orthographique de plus en plus fins et précis. C'est un dispositif assez complexe à mettre en place parce qu'il suppose un ajustement permanent par rapport aux réponses des élèves et à leurs propositions. Alors, il faut qu'on prenne ce que les enfants nous donnent. Généralement, en début d'année, l'enseignant demandera peu de choses à écrire et progressivement, l'exercice deviendra plus complexe et plus long. On échange très régulièrement les écrits entre élèves ou entre classes. On se sert aussi d'un cahier d'écriture spécial pour créer un lien entre les familles. Tout est une occasion d'écrire et de communiquer. Malheureusement, selon Jacques David, l'écriture approchée n'est pas assez utilisée dans les classes en France, puis moi j'ajouterais au Québec aussi. Les enseignants font peu écrire leurs élèves, quelle que soit la classe d'âge. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas ou rechignent, mais parce que c'est un exercice très difficile. Bien qu'il existe de nombreux travaux et recherches sur l'aide à l'écriture, la plupart des enseignants ne savent pas trop comment s'y prendre pour amener leurs élèves à améliorer leurs textes, leurs écrits. Du coup, cette pratique reste peu utilisée dans les classes. Alors voilà, je ne sais pas si ça vous éclaire un peu plus.
Puis pourquoi ça s'appelle approcher déjà?
Parce que l'idée, c'est qu'on part de ce que les enfants connaissent et tranquillement, pas vite, on les invite à s'approcher de la norme orthographique ou de comment les mots s'écrivent.
Okay.
Au lieu de leur montrer d'abord la norme et de s'attendre à ce qu'ils l'utilisent. Alors, c'est le processus inverse.
Okay.
Voilà. C'était un texte de Anan Lin, publié sur le site nouveauil.fr.
Je t'aime, le sort en est jeté, et j'en ferai le thème de ma réalité. Je donnerai mon corps à des sciences nouvelles, je déjouerai la mort, je viendrai qu'un. Tu m'appelles. Je t'aime, je t'aime. Et déjà cet amour érigé en système enflamme les discours. Et en bas dans la rue, c'est la révolution. Les statues et que résonne ton prénom. la vie continue. Philippe B. qui nous chantait « Je t'aime, je t'aime
oh, ». Moi aussi, je t'aime, Mathieu.
Hey, hey, hey.
Oui, alors, mais j'aime aussi Yvan, finalement. Alors, Yvan...
C'est juste un petit peu Monique.
Oui, j'aime aussi Monique. Je vous aime tous. Yvan, parlons au vélo, c'est plus sûr. Tu sais.
on ne sait pas. Enfin, 1 million de jeunes Québécois de 3 à 17 ans, donc avant 18 ans. Donc, 69 % de cette tranche d'âge, 7 personnes sur 10 mm-hmm. de moins de 18 ans ont fait du vélo en 2015. Selon l'état du vélo au Québec, c'est l'étude que Vélo Québec réalise tous les 5 ans. Bonne nouvelle, la baisse constatée lors des analyses précédentes s'est arrêtée. Que ce soit pour aller à l'école, visiter des amis, pratiquer un sport, le vélo fait définitivement partie de la vie quotidienne des jeunes Québécois. Il faut dire que de multiples incitations les poussent à adopter le vélo. Voici quelques idées pour aider des jeunes à apprécier le vélo en suivant leur croissance. Et c'est le titre de ce petit article, ça s'appelle « Suivre la croissance » sous la plume de Maxime Bilodeau dans Vélomag de juillet-août 2018. Et ça commence en disant que les rayons de librairie débordent de bouquins sur la parentalité. Mm-hmm. Plus rares, toutefois, sont les conseils qui s'adressent spécifiquement aux parents de jeunes cyclistes. Alors, on commence. Entre 0 et 5 ans, la formidable Draisienne. Et puis là, si j'ai le temps, à un moment donné, je vous explique pourquoi ça s'appelle Draisienne en passant. Oubliez le tricycle et les petites roues pour initier votre bout de chou à la petite reine. Optez plutôt pour une Draisienne. Au guidon de ce vélo sans pédale, il apprendra à analyser sa trajectoire, contrôler sa direction, se tenir en équilibre, bref, les rudiments du vélo.
Il y en a de plus en plus, oui.
Oui, c'est un monsieur allemand qui avait inventé ça, puis son nom, ça finit par Dreis.
Ah, voilà, Dreisienne.
Avec ma formidable prononciation allemande. Grâce à cet outil remarquable, le passage sur un vélo de grand se fait plus aisément. Après ça, de 5 à 12 ans, on parle de jeu libre. La science le dit. Le jeu non organisé, sans aucune visée, sauf celle de s'amuser, est indispensable au bon développement d'un enfant. Bonjour, traduction. Fichez-lui la paix à votre cycliste en herbe. Lorsqu'il pourchasse des monstres imaginaires au guidon de sa licorne ailée, c'est-à-dire son vélo, il est en train d'associer le vélo au plaisir. Maintenant, les vélos usagés. Vous couvez de la graine de champion cycliste? Disons-le, le prix d'une monture neuve adaptée à sa morphologie, par ailleurs évolutive, est disproportionné. La solution, se tourner vers les petites annonces afin d'y dénicher les bonnes occasions. Avec un budget de quelques centaines de dollars, on s'en sort sans peine. Ensuite, on commence à regarder après 5 ans. Puis là, on parle de multisport. Puis nous, on a été parents d'un joueur de hockey, ça va nous parler pour une autre raison. Pédaler, c'est bien beau. Traduction, jouer au hockey, c'est bien beau. Mais ça n'apprend pas à courir, lancer, sauter, nager, se rouler dans la boue, grimper dans les arbres. L'enfance est l'âge pendant lequel il faut multiplier les expériences sportives et physiques sous toutes les formes, ne serait-ce que pour offrir aux jeunes le luxe du choix. Maintenant, on pense à des jeunes qui pourraient devenir des compétiteurs. Au Québec, la Fédération québécoise des sports cyclistes, le FQSC, impose une limite de braquet à tous les cyclistes de catégorie junior et inférieure à 19 ans. Une limite de braquet, ça veut dire que ça les empêche d'avoir des vitesses qui sont très dures à rouler. Cette décision n'est pas fortuite. Elle encourage les jeunes à tourner les jambes plutôt qu'à pousser gros, diminuant les contraintes exercées sur les genoux. Un peu d'air maintenant pour les jeunes de 12 à 18 ans. Vos enfants veulent rouler seuls de leur côté ou en compagnie de leurs copains, bref, loin de vous.
Évidemment.
Encouragez-les. L'autonomie et le sentiment d'efficacité personnelle de ces adultes en devenir n'en seront que plus développés. Mais s'ils font une crevaison, subissent une avarie ou se perdent, on se regarde parce que ça nous est arrivé il n'y a pas longtemps. Ne vous inquiétez pas, le cas échéant, votre téléphone sonnera assez vite.
Eh oui.
Et là, on s'en va vers le début de la spécialisation vers les enfants de 15 à 18 ans. C'est autour de l'âge de 15 ans qu'un jeune peut choisir de faire de la compétition cycliste et y concentrer ses efforts, pas avant. Nombre d'études le démontrent d'ailleurs. En moyenne, plus un jeune se spécialise de manière tardive, plus les chances sont grandes que sa passion du vélo perdure. Et finalement, s'entraîner pour de vrai, pour les 18 ans et plus, la majorité n'est pas seulement synonyme de pleine responsabilité civile, c'est aussi l'âge à partir duquel on peut finalement s'entraîner comme un adulte sans contrainte relative à sa maturité physique. Si l'âge d'or du cycliste existe, il débute maintenant et vous pouvez trouver ces conseils dans Vélomag de juillet-août 2018 sous la plume de Maxime Bilodeau.
Merci Yvan. Alors restez avec nous après la pause pour la suite de l'émission. On vous parle de planètes jumelles à la Terre, dans l'univers, de surexposition aux écrans des enfants et du programme Cycliste Averti.
Wow!
Comme les gardiens avertis.
Puis tant qu'à faire, tiens un petit mot d'enfant pour vous laisser sur une bonne note. La bruine, c'est tant de chiens où ils flottinent, selon Mariette, 6 ans.
OK.
Ils flottinent.
Ils flottinent.
Thank you.
so alone.
Feist, How Come We Never Go There. Une chanson pour introduire votre article, ma chère.
Ah, merci beaucoup, Mathieu.
C'est bien. Alors, parlons oui. de l'espace, de
parlons
l'univers.
De l'espace.
Sommes-nous seuls?
Exactement. Mm-hmm. Alors, il s'agit d'un article de Mathilde Fontes pour la revue Science et Vie de mars-avril-mai 2018, qui s'intitule « La Terre a-t-elle une planète jumelle dans l'univers? » Alors, les astrophysiciens étaient convaincus depuis longtemps que les planètes habitables se comptent par milliards dans la galaxie et que la Terre est loin d'être unique. Il a cependant fallu attendre 2014 pour que l'une de ses semblables se dévoile enfin, la toute première exoterre. Une étape était franchie, le concept maintes fois fantasmé d'exoterre venait de prendre corps. Celui d'une petite boule perdue au cœur de la constellation du Cygne dans la Voie lactée. On l'appelle donc Kepler 186F.
Ben mon Dieu, que c'est romantique.
C'est romantique.
Pourquoi pas?
Son signal ténu a été isolé parmi les données recueillies par le télescope Kepler, qui, en quête d'exoplanètes, une exoplanète, ben c'est des planètes qui sont situées en dehors de notre système solaire, a scruté 150 000 étoiles entre 2009 et 2013. Sitôt annoncé dans la revue Science, le 17 avril 2014, la nouvelle de sa découverte a fait le tour du monde. C'est la première cousine de la Terre, annonçait Steve Howell, astronome à la NASA, tandis que certains de ses collègues allaient jusqu'à affirmer qu'il s'agissait presque de sa jumelle. C'est en tout cas l'exoplanète la plus habitable à avoir été observée et de loin, tranchait Jeffrey Marcy, spécialiste des exoplanètes à l'Université de Californie à Berkeley aux États-Unis. Sa découverte est historique. La première planète de la taille de la Terre trouvée dans la zone habitable autour de son étoile. À ce jour, les astronomes ont découvert plus de 3700 exoplanètes. Parmi elles, ils estiment que des centaines sont assez petites pour être rocheuses et que des dizaines d'entre elles orbitent à la bonne distance de leur Soleil. Celle qui leur permet d'abriter de l'eau liquide. Mm-hmm. Ce sont les deux caractéristiques importantes qu'il faut retenir. Mm-hmm. Avec cette première Terre bis, ils en ont débusqué une qui remplit ces deux conditions sans lesquelles on ne peut imaginer le développement de la vie. Que sait-on d'elle? Eh bien, selon les premiers calculs, Kepler 186F a un rayon de quelque 7000 km, soit pratiquement celui de la Terre. Elle a peut-être exactement donc la même taille. Elle orbite à un peu plus de 50 millions de kilomètres de son étoile, soit approximativement l'orbite de Mercure dans le système solaire, bien plus près donc que la Terre. Mais l'étoile qui trône dans le système Kepler 186F étant plus faible que notre Soleil, les températures à cette distance devraient être clémentes. Il s'agit en effet d'une naine rouge qui fait la moitié de la masse du Soleil et rayonne donc beaucoup moins. La zone habitable de ce système, c'est-à-dire sa portion où l'eau peut se trouver à l'état liquide, est par conséquent plus proche de son Soleil. Mm-hmm. Et Kepler 186 est en plein dedans.
F.
Bonne place, bonne taille, reste à savoir si Kepler 186F est bien ce que promettent les indicateurs astronomiques. Une planète rocheuse couverte d'océans. Une rocheuse. Elisa Quintana, qui a dirigé l'étude à la NASA, et ses collaborateurs en sont persuadés. Mais pas à 100%, car il leur faudrait connaître sa densité. Or, Kepler 186F a été détecté via la méthode des transits, c'est-à-dire en captant l'infime baisse de luminosité de son étoile lorsque la planète passe devant elle. Le télescope a pu mesurer alors son rayon. L'intensité et le rythme de ces variations lumineuses prouvent que cette planète a la taille de la Terre à 10 % près. Sa masse reste en revanche inconnue. Cependant, grâce aux modèles et surtout aux exemples d'exoplanètes dont la densité a été mesurée, les astrophysiciens savent qu'en dessous de 1,5 rayon terrestre, une exoplanète est rocheuse. D'où la conviction que Kepler-186f a bien une surface solide. Quant à savoir si elle recèle de l'eau liquide, il y a davantage de doutes. En effet, si les étoiles naines peuvent, à l'instar de notre Soleil, émettre assez de lumière pour offrir à leur planète des températures clémentes, ces systèmes ont des particularités parfois défavorables. Alors, la zone habitable étant plus proche du centre, les planètes qui y évoluent subissent fortement la gravité de leur étoile. Elles peuvent ainsi se trouver bloquées dans leur rotation sur elles-mêmes et présenter toujours la même face à leur Soleil, une configuration qui pourrait, dans certains cas, empêcher l'eau de demeurer liquide. Ces planètes, dites synchronisées, peuvent avoir un climat doux si elles sont entourées d'une atmosphère dense qui redistribue la chaleur. Mais si ce n'est pas le cas, il peut se former ce qu'on appelle un piège à froid. La face opposée à l'étoile emmagasine toute l'eau et la stocke sous forme de glace. Cousines jumelles ou presque jumelles, les astronomes se sont en tout cas accordés pour célébrer cet instant. Ils ont trouvé la première exoplanète de la famille de notre planète bleue. De quoi attiser l'envie de mieux la connaître. Hélas, on ne saura sans doute jamais si elle est habitée. Kepler-186f gravite à 500 années-lumière de la Terre. Et c'est bien trop loin pour que les télescopes actuels puissent étudier la composition de cette atmosphère. Alors, on va se souhaiter un télescope plus puissant un jour. Alors, c'était un article de Mathilde Fontes pour la revue Science et Vie de mars-avril-mai 2018.
Et en attendant d'y aller, alors, Keplérien, Keplérienne, si vous nous écoutez, si vous nous entendez,
signe.
Bonjour!
F, c'est-tu pour francophone?
Alors, la surexposition aux écrans fait des ravages chez les jeunes enfants. C'est quelque chose qu'on entend souvent. C'est un texte, cette fois-ci, de Simon Delâtre, publié sur le site du journal L'Acadie Nouvelle, le 6 juin 2018. Téléphone intelligent, tablette, ordinateur, console de jeu, télévision, l'utilisation massive des écrans représente un grave danger pour le développement moteur et mental des jeunes enfants. Une pédiatre de Moncton sonne l'alarme. Pédiatre au Centre hospitalier Université Dr Georges L. Dumont, la Dr Geneviève Leblanc observe sur le terrain les impacts de la révolution numérique sur les jeunes cerveaux. On a beaucoup plus de consultations d'enfants qui ont des retards de développement et des retards de langage, dit-elle. Ils perdent en créativité et ne sont pas prêts pour la maternelle. Les enfants ne savent plus peinturer, ils ne savent plus découper, ils ne savent plus décorer parce qu'ils ont un iPad chez eux. Le développement, la cognition, le langage, tout ça est en train de se métamorphoser et on commence seulement à voir l'impact que ça a. C'est toujours la docteure Leblanc qui parle. La télévision est peu susceptible de nourrir l'apprentissage, contrairement aux activités d'exploration et aux échanges directs avec les parents, insiste-t-elle. Il n'y a rien de plus bénéfique que de peinturer, de manipuler des choses et d'avoir un parent qui est là avec toi pour te montrer comment faire. La tablette ne peut pas remplacer ça. En octobre 2016, l'Académie de médecine de pédiatrie rappelait que le temps passé sur les écrans par les enfants limitait, de fait, les autres temps de la vie courante, tels que jouer, étudier, discuter ou dormir. Moi, j'ajouterais apprendre à faire du vélo, considérant ce que tu viens de lire, Yvan. Autant d'activités qui participent à la construction physique et mentale des plus jeunes. Les problèmes commencent quand les écrans remplacent l'activité physique, l'exploration pratique et l'interaction sociale, souligne l'institution américaine. Geneviève Leblanc observe que la plupart des parents ne sont pas conscients des effets nocifs d'une trop grande exposition. Elle dit, il ne faut pas se le cacher, l'écran est une bonne gardienne. Ça stationne les enfants, ils sont comme hypnotisés. Mais une fois qu'on leur enlève, il y a des crises. Les parents ne savent plus quoi faire, ça devient une bataille de tous les instants. La pédiatre encourage les parents à fixer des limites et à trouver un équilibre pour éviter que l'attention de leurs protégés soit focalisée en permanence sur les écrans. Ne laissez les écrans allumés quand personne ne les regarde. Ne laissez pas les écrans allumés quand les personnes ne les regardent. Ça conviendrait mieux. Évitez les télévisions dans les chambres à coucher. Les écrans ne devraient pas avoir les yeux fixés sur l'écran dès le matin ou tout de suite avant de se coucher. Il y a une hygiène de vie à avoir et ça commence par les parents. Il faut qu'ils soient des modèles.
Oh, polite.
Oui. Alors, moi, je le prends pour moi ici. La Société canadienne de pédiatrie appelle d'ailleurs à ne pas exposer du tout les petits de moins de 2 ans et à limiter le temps d'écran à 1 heure par jour pour les enfants de 2 à 5 ans. Elle conseille de maintenir les périodes sans écran, particulièrement lors des repas familiaux et pour faire la lecture. L'organisation dit craindre que l'envahissement des médias remplace les échanges directs entre les parents et l'enfant. Elle recommande de privilégier les vrais échanges, des jeux actifs et du temps de qualité en famille. D'après une étude de l'Université de Toronto publiée en mai 2017, plus un enfant passe de temps devant un écran, plus il a de retard dans l'apprentissage du langage. Sur près de 900 enfants âgés de 6 mois à 2 ans, et suivi entre 2011 et 2015, les chercheurs ont observé un risque accru de 49 % de retard de la parole pour chaque demi-heure quotidienne d'écran. Une étude publiée dans la revue Nature en mai 2017 a également montré que les tout-petits, donc les enfants de 6 à 36 mois, exposés aux écrans en fin de journée, ont une durée de sommeil significativement plus courte du fait de la lumière bleue émise par les téléphones intelligents et les tablettes. Cette dernière affecte, là on parle de la lumière bleue, affecte la synthèse de mélatonine, une hormone jouant un rôle important dans le mécanisme du sommeil. L'excès d'exposition aux écrans aurait également des conséquences sur la vue des 16-24 ans, a alerté l'Association française pour l'amélioration de la vue en août 2017. À cela s'ajoute des problèmes d'obésité, des difficultés de concentration et d'apprentissage, ou encore des troubles du comportement et de la communication. Alors, sacrez vos enfants dehors, sans tablette, pour l'été, s'il vous plaît. Voilà pour le texte.
Laissez-les jouer dehors.
Et laissez-les privilégier les jeux libres.
Oui, c'est ça.
Alors, rappelons que le texte que je viens de vous lire, c'était un texte de Simon Delattre, publié sur le site L'Acadie Nouvelle. Yvan, on parle du programme Cycliste Averti.
Oui, c'est ça. Ça aussi, ça se passe dehors. Oui. Cycliste Averti, oh, j'ai failli perdre ma tablette. c'est encore là dans le magazine Vélomag de juillet-août 2018. C'est qu'il y a une série d'articles sur l'apprentissage des jeunes au vélo. Alors, cycliste averti, premier tour de roue vers l'autonomie, sous la plume de Sarah-Émilie Nau dans Vélomag, juillet-août 2018. Un sentiment d'autonomie, des parents moins craintifs, des progrès dès la première sortie sur route, des supports à vélo bondés, voilà quelques-uns des effets positifs du programme Cycliste averti, une initiative imaginée par Vélo-Québec en vue de mieux outiller les jeunes du troisième cycle du primaire.
Donc, cinquième et sixième année.
Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire quoi? 11-12 ans?
Oui.
À peu près?
Oui.
L'objectif du programme Cycliste averti est simple. Préparer les jeunes à être des cyclistes autonomes sur la route, énonce Magali Bebron, chargée de projet chez Vélo-Québec. Nous souhaitons qu'ils acquièrent la compétence de savoir bien circuler à vélo dans le but qu'ils deviennent des usagers de la route respectueux et sécuritaires lors de leurs déplacements. Lancé par Vélo-Québec sous forme de projet pilote en 2015, donc il y a 3 ans, Cycliste averti a d'abord touché 150 élèves montréalais du troisième cycle du primaire. Dès la deuxième année, le programme s'est étendu à l'extérieur de Montréal, la Mauricie étant la deuxième région à se joindre à l'aventure. Aujourd'hui, Cycliste averti forme aussi des jeunes de Lanaudière, du Saguenay, du Bas-Saint-Laurent, de Québec et des environs de Bromont. Notre cible est que, d'ici quelques années, le programme se déploie dans l'ensemble des régions du Québec, selon toujours Magali Bebrun. Selon la chargée de projet, c'est le fait que les jeunes s'exercent directement sur la route qui donne au programme Cycliste averti son caractère novateur. Jadis, le programme, qui s'appelait Vélocité à cette époque, comprenait un mini-circuit dans la cour d'école. Maintenant, nous allons plutôt sur la rue, afin de permettre aux jeunes de vivre la réalité des interactions routières en milieu routier. Le programme Cycliste averti se compose de 4 volets. Le premier, théorique, se déroule en classe, sous la conduite des enseignants titulaires, qui disposent d'un cahier et de contenu développé par Vélo-Québec. 6 modules d'une heure chacun, abordant une multitude de thèmes de la théorie de la sécurité routière. L'apprentissage s'effectue à travers des lectures de textes, des vidéos, des animations, des jeux vidéo, des simulations, du dessin, sans oublier quelques comparaisons avec d'autres pays. Le deuxième volet met à contribution les enseignants en éducation physique, qui ont pour mission de faire développer les compétences motrices et la maîtrise du vélo par le jeu chez les élèves, le tout dans un environnement sécuritaire et fermé, le gymnase ou la cour d'école. Puis là, si les enfants ont fait de la draisienne entre 0 et 5 ans, ils sont tellement bons à ce moment-là. Les enfants qui sont capables de rouler en ligne droite, d'éviter des obstacles, de freiner des deux mains, de conduire d'une main afin de signaler leurs intentions et de regarder derrière leur épaule sans dévier de leur trajectoire sont ciblés par l'enseignant comme suffisamment habiles pour faire une sortie sur route. Je pense que tu pourrais faire une sortie sur route, Marie.
Je l'espère.
Tu as toutes ces conditions-là.
Oui. C'est un minimum quand même.
Oui. Les troisième et quatrième volets regroupent des activités sur route menées par des instructeurs cyclistes formés par Vélo-Québec. Nous élaborons un trajet de 3 à 5 km autour de l'école. Il est important que ce trajet comporte un certain nombre de défis, de façon à ce qu'il soit représentatif de la réalité du quartier. Évidemment, nous évitons les endroits dangereux, mais nous n'écartons pas toutes les difficultés. Notre philosophie est qu'il vaut mieux que les jeunes tentent l'expérience avec nous de façon adéquate plutôt que de la faire seule en faisant des erreurs. Régulièrement, le long du parcours, le groupe s'arrête afin que les instructeurs fassent la démonstration de manœuvres. Les jeunes développent ainsi leur capacité à prendre de bonnes décisions tout en apprenant des erreurs et des bons coups des camarades qu'ils ont le loisir d'observer. Là, en parlant de manœuvre, là, ça veut dire par exemple un virage à gauche. Ça veut dire on arrête, puis on signale qu'on arrête, des choses comme ça. C'est lors de l'examen sur route que chaque élève, accompagné d'un instructeur, est appelé à faire ses preuves, comme un examen de conduite en fait. Il doit démontrer qu'il a acquis les bons réflexes de cycliste. Le programme se conclut par la remise à chacun des élèves d'un bulletin personnalisé selon son niveau, débutant, intermédiaire ou averti. C'est en se basant sur des modèles européens tels le brevet du cycliste en Belgique ou ceux du Danemark et à la suite de nombreuses recherches que le programme Cycliste averti a été mis sur pied chez nous. Nous voulions offrir aux élèves du troisième cycle la chance d'aller sur la route, expose toujours Mme Bebrun. Plus jeune, à 5, 6 ou 7 ans, un enfant n'est pas assez mature du point de vue de son développement cognitif et comportemental pour appréhender toute la complexité de la route. Et en même temps, que des enfants de 5 ou 6e année n'aient jamais fait de vélo est beaucoup moins rare qu'on pourrait le croire. Nous souhaitions atteindre ces jeunes avant leur entrée au secondaire, des outils afin qu'ils puissent alors faire du vélo le trajet entre la maison et l'école. Les créateurs de Cycliste averti aspirent à provoquer chez les familles une réflexion relativement à leur choix de déplacement, le tout en générant un cercle vertueux où l'enfant se sentira de plus en plus en sécurité et capable de se déplacer sur deux roues. Les enseignants et les écoles souhaitant participer au programme Cycliste averti peuvent se manifester auprès de Vélo Québec à vélo.qc.ca/cycliste averti en un mot ou en écrivant à cycliste averti en un mot à commercial vélo.qc.ca. C'était dans l'article Cycliste averti, premier tour de roue vers l'autonomie de Sarah-Émilie Nau dans Vélomag de juillet-août 2018.
Un beau projet! Alors, quelques brèves, Monique.
Oui.
Parlons d'ongles.
Je parle d'ongles.
Oh,
alors,
oui.
Est-ce que ceux-ci poussent moins vite l'hiver?
Bonne question.
Hein? Alors, il y a de simples constats, mais aucune explication, on sous-entend, scientifique établie.
Oh.
Difficile d'expliquer cette différence de croissance qui n'a jamais été mesurée. Le seul chiffre disponible dans le corpus scientifique à propos de la croissance des ongles évoque une pousse de 1,5 mm par mois pour des ongles de pied, contre 3 mm pour ceux des mains.
Ah.
Oui, il y a une grande différence. Hein? Rien sur la saisonnalité pourtant constatée. L'explication la plus sérieuse concernerait l'exposition au soleil. Ainsi, en valait-il pour les cheveux, la circulation sanguine ralentissant quand il fait moins chaud.
Mm-hmm.
Alors, les racines moins nourries produisent moins de kératine. Des jours plus courts et un rayonnement moins intense pourraient donc être à l'origine du ralentissement hivernal de la pousse des ongles. Donc, ils poussent moins vite l'hiver.
Oh, ben. Ça veut dire qu'on va moins souvent chez le coiffeur en hiver?
Et chez le...
Peut-être,
dit-il. Yvan?
Alors, on vient de comprendre la chevelure de Mathieu d'un coup. Quel est l'événement sportif d'importance qui a lieu aujourd'hui, mesdames?
Le grand défi Pierre Lavoie.
Bien oui, je pensais que vous alliez dire le début de la Coupe du monde de soccer.
Non.
Ça aurait pu. Pour la 10e édition, le grand défi fait les choses en grand. Une première étape relevée amorce ce parcours à portée régionale. Tous les participants sont invités à pédaler pour atteindre la municipalité de Lens-Saint-Jean, ville natale de Pierre Lavoie. C'est une distance de 67 km avec une vitesse moyenne de 20 km à l'heure parce que ça grimpe. Cette étape qui emprunte une partie de la route du Fjord représente un défi d'ascension pour les 1075 cyclistes qui devront être prêts à travailler en équipe pour arriver à destination. Les Angenois, ça c'est les gens de Lens-Saint-Jean, réservent un accueil hors du commun aux 1000 km. L'arrêt est aménagé pour profiter d'une vue magnifique sur Lens-Saint-Jean et le fjord du Saguenay. Ça commence ce midi pour toute la fin de semaine. Ça finit à Montréal au bout de 1000 km et ça ne sera pas plate ni plat.
Bon courage!
Bon courage! On pense à vous. Et donc, si vous avez un peu de temps en fin de semaine, vous pouvez aller au pied du courant. La chute à neige Folhomme, près du pont Jacques-Cartier, se transforme en village au pied du courant. Donc, c'est ouvert du jeudi au dimanche au 2100 rue Notre-Dame-Est jusqu'à la mi-septembre. Vous pouvez y aller en fin de semaine. Quelques mots d'enfants en quittant. Bulles, ce sont les petites boules qui volent alors qu'elles n'ont même pas d'ailes, selon Paul, 6 ans. Et... Tiens, l'écho, c'est le bruit quand j'entends mon ombre. Je l'aimais, celle-là, vraiment.
Oh oui,
beaucoup.
Vraiment.
Alors voilà, chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci Mathieu pour la mise en onde et les choix musicaux. Merci Monique, merci Yvan.
Merci Marie pour l'animation.
Plaisir, merci à vous d'avoir été à l'écoute. On vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Bonne fin de journée, bonne fin de semaine.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.